Quand la mécanique des molécules les plus intriquées s'insère dans les cases prévues à cet effet au cœur même des méandres du pouvoir, le sens des aiguilles d'une montre n'a plus rien à voir avec le soleil. Entre les tuiles luisantes et les velours tendus, la tranche de deux choses l'une. On passe bien sûr par les hauts cris. La convulsion est d'abord vocale, avant de mettre en mouvement le cubitus, la giroflée, l'ambidextre, l'hypothèse, jusqu'à secouer les grands orgues lovés en circonvolutions inférieures et repasser l'énergie ainsi cumulée au mouvement contraire d'autres molécules, plus simples celles-là. Le levier, rien de secret. Et la martingale s'emballe, deux pas de plus, et c'est le vide, avec fracas.
L'homme bégaye. Le tigre grogne. Le poisson frétille. L'abeille butine. Le moteur rugit. La poule pond. L'homme étouffe. L'oiseau chante.
Thank you.
J'étais tellement petite que je peux pas. Ça fait du bruit quand ça bouge. Je me rappelle du bruit. Ouais. Je vais avoir. Ça devait être quand je pouvais marcher, regardez. Non. Et les tentures jaunes. Et puis. Parce qu'elle n'est pas si bête que ça. À chaque pas où elle va, où elle va. Elle voit où elle va. Mais non pas qu'elle voit loin, mais quand elle voit, quand elle met son pas, elle voit où elle va aller. Ah!
Et les bestiaux soufflent. On entend des narines et des camouflages. On sent le miel et la levure, le liège et le métal. La lune frappe les bordures variables de la céramique. Quelques éclats.
Thank you. sur l'extrémité dorsale de la cheville, 5 fois par qui termine la partie du corps humain. La partie du corps humain. À l'espèce animale la plus évoluée de l'ensemble de tous les lieux. Constante.
On a commencé à faire des scaphandres parce qu'on avait arrêté de fabriquer des armures. Nous sommes allés à la gare. Sous l'horloge en bois avec des anguilles en bois, l'air était jaune de partout. Les marches grises et rondes glissaient sous la semelle. Ça sentait l'église. Les pierres suintaient de plus en plus à mesure que l'escalier se transformait en tunnel, quelque chose comme le métro de Londres pendant la Deuxième Guerre, avec des couchettes suspendues un peu partout dans un grand corridor vert pâle, des boîtes pleines d'intitulés, de magazines fripés ou de frites magasinées. Ça sentait aussi le vieux comme celui-là couché maigre. Sa couverture de laine rude était rouge rude, avec un peu de noir rude. Quelque chose qui laisse passer l'air et le froid et l'eau. Au fond, les murs. Ça sentait la corde et l'encens métallique de tuyaux surchauffés. Dans la cour, derrière les arbustes gris, un gros chat gris lacérait la base d'un arbre, pendant qu'autour du tronc voisin, un troupeau de pigeons tournait à la queue leu-leu, creusant dans la neige mouillée un ravage circulaire qui en disait long sur l'état des choses. Les trains ont toujours des dessous huileux. Les sons qui émanaient d'eux vibraient l'air jaune et bleu. Comment replier les doigts dans les gants? Sur la paume? Tous ensemble? Rien n'y fait. La glace devrait pourtant laisser place à une manière de printemps ou au moins à un réchauffement passager. Quelque chose dont on pourrait dire qu'il y a encore ou peut-être ou même au cas où, si jamais. Rien n'y fait. Les boîtes se font encore en carton, le pain en tranches, la tête en avant. La table en bois brun recèle quantité de micro-organismes, des petites quantités molles qui bougent en petites quantités. C'est beau les micro-organismes, ça grouille un peu, ça dort, ça flotte comme dans un verre ou dans l'eau d'un coin d'œil. Ça s'entoure de petites bulles et de petits grains de choses. Ça pullule. Ça rappelle les petites cochonneries que l'on voit quand on se regarde dans les yeux tournés vers le ciel le matin. Dans l'espace de corridor trop large, un éclairage violent, blanc violent. Une rangée de petites portes verticales, toutes identiques, étroites et numéros. Des dates ou des logements. L'odeur transversale du papier mouillé. Pourquoi les portes sont-elles toutes si obstinément, si catégoriquement verticales? On a commencé à apprivoiser les chevaux parce que pour les ânes, on s'y était pris trop tard. Quand le grand corps s'ébranla, le petit aussi. Je suis revenue en zigzagant entre les pavés. Dans les planches des planchers de bois brun sombre, il y a comme une sorte d'huile qui donne à l'aube une manière de cirage. D'aucuns diraient d'épiderme, ou de patine. Un téléphone en bakélite noir comme de raison, une plante verte couverte de poussière sans en avoir l'air, des ustensiles sales, des lettres en provenance d'ailleurs comme de raison, un gris peint en métal et un sac en plastique, des mottes de mouton ici et là, de cet amalgame de cheveux, de tissus et d'autres trucs innommables dans lesquels il faut bien, de temps à autre, échapper son pain. Le cri du téléphone est une arme. À deux tranchants. Retirer cette excalibur des limbes qui se déroulaient autour des pattes de chaise était bien au-dessus des forces humaines en présence. Il fallut temporiser. D'abord, puis, dans cet ordre. Et là, il était trop tard. Mais bon. Dans les mouvements lents que décrivent les extrémités du corps dans son déplacement d'un lieu à un autre, il y a la clé d'un sommeil de la censure qui nous guette quand nous pensons assis. Toute une civilisation qui se soumet à l'excision des facultés mobiles de son nerf principal. Les vertus rédemptrices des organes téléphoniques sont encore à démontrer. Quand l'air résonne comme ça, sa couleur change, passe du jaune au vert, le bleu des yeux étant accordé à l'image sonore des millions de petites bêtes en cuivre qui courent le long des fils en rangées serrées, animées par le défilé des pales de turbines des barrages comme au lac. On a commencé à faire des scaphandres parce qu'on en avait assez des téléphones mouillés.
Thank you.